Bonjour et bienvenue sur la selle de Rayon Libre, la seule émission radio sur la bande FM qui donne la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. Vous écoutez Jérôme Sorel, vous êtes sur Cause Commune, fréquence 93.1. Rayon Libre fonctionne un peu comme un tandem, c'est 30 minutes de discussion sur le vélo, autour du vélo, qui donne envie, on l'espère, de faire du vélo. Comme le tandem, ça fonctionne si vous n'êtes qu'un, c'est plus intéressant si on est deux. Aujourd'hui, la réalisation est confiée à Amandine Rabier, merci si c'est Amandine, et à Stéphane Dujardin, merci Stéphane. Il y a quelques semaines, je recevais à ce micro Maximilien Schnell, Rayon Libre numéro 92. Maximilien passe sa vie sur son vélo. Il part, il revient rarement. Un choix de vie un peu extrême. Mon invité du jour a choisi un mode de vie plus classique. Une femme, un enfant, un boulot à Paris. Ceci ne l'a pas empêché depuis une vingtaine d'années de s'organiser, en gros, un week-end par mois à sillonner la France sur son vélo. De ses pérégrinations, il en a fait un livre, « Deux jours en France à vélo », édité chez Rossolis. Avec Geoffroy Séblin, nous allons donc parcourir la France en train et à vélo. Nous allons aborder le sujet de la chronique d'Abel de la semaine dernière. Est-ce facile de mettre son vélo dans le TGV et dans le train? Nous allons aussi nous demander comment le cycliste est accueilli dans cette France des villages et des autres sous-préfectures. Et si cette émission vous donne envie de pédaler et partir deux jours à vélo en France, alors nous aurons réussi notre émission. Bonjour Geoffroy.
Bonjour Jérôme.
Comment allez-vous?
Très bien, très heureux de pouvoir participer à cette émission et de parler vélo.
Eh ben, mais c'est moi qui suis heureux de vous recevoir. Merci de nous donner un peu de votre temps. Alors, Geoffroy, je ne peux pas commencer cette émission sans vous demander le métier que vous exercez en temps normal.
Alors, rien à voir avec le vélo. Je gère des établissements de nuit, des salles événementielles pour une société qui s'appelle Paris Society. Ouais. Je fais ça depuis une vingtaine d'années. Donc j'essaie de mettre en avant l'activité festive pour tous les Parisiens, parce que c'est surtout des salles festives et événementielles qui sont essentiellement à Paris.
Et alors vous me dites depuis une vingtaine d'années, et vous venez de publier un livre qui s'appelle « Deux jours en France à vélo », et c'est aussi un recueil de voyages à vélo depuis 20 ans.
Exactement, j'ai commencé ma vie à 20 ans, il y a 20 ans.
Vous avez 40 ans, je crois, aujourd'hui?
Ouais, 41. Donc c'est vrai qu'il y a deux choses importantes dans ma vie qui ont commencé il y a 20 ans. Plus de 20 ans maintenant, c'est mon activité professionnelle, même si elle est lourdement impactée par ce qui se passe actuellement, mais c'est une activité très présente et très importante, en tout cas dans la vie des Parisiens et des Parisiennes. Et la deuxième chose qui a commencé il y a 20 ans, c'est un peu cette évasion à vélo dont on va parler dans votre émission. Et au bout de 20 ans, j'ai dû parcourir une centaine, 120, 130, 130 parcours. Ouais. J'ai pas le nombre exact, mais en tout cas, c'est plus d'une centaine. Donc, j'ai bien traversé la France en long et en large.
Et en travers. Mais alors, pour moi, il y a une vraie question. Est-ce que pour vous, il y a une accordance de temps entre cette entrée dans la vie active et une vie, j'imagine, un peu trépidante parce que vous êtes clubbeur, enfin, vous travaillez dans l'univers de la nuit, et ce besoin, malgré tout, d'évasion et de prendre du temps et de peut-être de vous recentrer un peu sur votre vélo?
Alors, c'est une super question, Jérôme.
Merci. Flattez-moi, Geoffroy.
Voilà. première bonne question, bravo. Vous avez raison, Jérôme, de dire ça, parce qu'au début, c'était pas le cas. Au début, il y avait une volonté de liberté, d'évasion, d'indépendance. J'ai commencé à pédaler, en fait, il y a un peu plus de 20 ans, j'avais 17 ans. Ouais. Avant, vous savez, quand vous avez 15, 16 ans, vous faites vos vacances avec vos parents, et puis un jour, vous avez envie de vous émanciper. Ouais. Y en a qui partent à l'étranger, faire des grands voyages, et moi, c'est un peu plus terre à terre. J'ai pris mon vélo, et au lieu d'aller à l'autre bout du monde, je suis parti en Corrèze, et j'ai traversé la Corrèze à vélo. Alors, c'était pas exactement la Corrèze, là, pour le coup, c'était ma première grande randonnée d'évasion, c'était dans le Massif central.
Massif, ouais.
C'était en Lozère, c'était sur le plateau de l'Aubrac. Donc au début, c'était vraiment un souhait d'évasion, d'émancipation.
Et j'ai le sentiment aussi qu'il y a une sorte un peu d'histoire familiale là-dedans. Vous racontez dans votre livre que vous traversiez la France pour aller dans le Pays Basque en voiture sans prendre l'autoroute, et au fait, votre papa vous a donné le goût de traverser les villages de France.
C'est exactement ça. C'est que quand on était enfant, on partait, on habitait Paris, et on allait sur la côte basque, et au lieu de prendre la fameuse A10, qui nous reliait au Pays Basque en 7-8 heures, on prenait la N10, donc c'est pas pareil.
Ouais.
C'est beaucoup plus long, et on prenait même pas la N10, je pense qu'on prenait les petites routes qui étaient en dessous de la N10, et donc on mettait 2 jours, mais on se perdait en France, on se perdait en Charente, on se perdait dans le coin d'Angoulême, dans les Landes, dans toutes ces merveilleuses régions. Et c'est vrai que je pense que ça m'a donné le goût des petites routes, des beaux paysages.
Et puis de prendre le temps aussi, non ?
Et de prendre le temps de découvrir la France, chose que vous ne pouvez pas faire quand vous prenez l'autoroute.
Oui. Alors, quand j'ai lu votre livre, j'ai pensé immédiatement à un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, le livre de Sylvain Prudhomme qui s'appelle « Par les routes », qui est l'histoire d'un autostoppeur qui, lui, parcourt la France par les autoroutes, justement, donc en voiture.
D'accord.
Et qui découvre lui aussi ce que vous appelez aussi cette France des sous-préfectures et des villages un peu endormis. Dans « Par les routes », le trajet importe peu, même s'il fait des rencontres, mais c'est la destination qui l'intéresse, le héros. Dans votre livre, vous, c'est un peu... C'est un tout, en fait. Le trajet est aussi important que la destination, visiblement.
Le trajet est important. La destination, pas plus que ça. En fait, ce qui est important, c'est, et j'allais répondre en fait à votre question tout à l'heure.
Ouais.
Au début, effectivement, il y avait cette envie d'anticipation, d'évasion. Et après, vous avez parfaitement raison. Je pense que j'ai une activité assez intense, assez dense, assez... quelquefois aussi assez superficielle,
ouais.
Faut le dire.
J'ai pas osé l'écrire dans mon fil.
Vous pouvez le dire. Je peux le dire, au bout de 20 ans, je me permets d'avoir une critique quelquefois de mon métier qui est passionnant,
ouais.
Parce que c'est beaucoup de rencontres, mais quelquefois ça peut être un peu étouffant, et il y a ce besoin. Il y a ce besoin de disparaître, il y a ce besoin de s'envoler, il y a ce besoin de prendre son vélo.
Un besoin de terroir
et d'aller
aussi.
Et d'aller à l'opposé de ce qu'on fait je ne vais pas dire du lundi au vendredi, c'est souvent du lundi au dimanche, alors quelquefois j'essaie de m'échapper, on va dire, 2 jours dès qu'il y a une,
ouais.
une belle fenêtre de météo. Donc en fait, ce n'est pas véritablement la destination, c'est vraiment le trajet, c'est vraiment ce que je vais vivre pendant ces 2 jours.
Et c'est le moment, les moments que vous allez vivre.
Exactement, c'est ce que je vais voir aussi, les paysages. Je vais peut-être surprendre certains de vos auditeurs, mais peut-être que les plus beaux paysages du monde se trouvent quelquefois en France, se trouvent en Aubrac, se trouvent dans le Cézallier, se trouvent sur le plateau de Mille Vaches. On connaît tous la France, on connaît la Tour Eiffel, le château de Versailles et bien sûr des très beaux lieux.
Oui, oui, et le château de Chambord et
le Mont Saint-Michel. Mais on ne connaît pas toujours ce qui se passe dans le Cézallier ou je vous dis, sur les plaines du nord de la France, il y a des coins qui sont extraordinaires, qui sont pas connus, qui sont même méconnus, qui sont oubliés, qui sont sous-estimés. Et c'est vrai que ce qui est extraordinaire, mais on en parlera certainement dans l'émission, c'est de pouvoir prendre un train, de se déplacer assez facilement jusqu'à une préfecture, et puis de cette préfecture, en quelques heures de vélo, vous retrouvez, je vous dis, dans des endroits qui sont pour moi immensément beaux, immensément émouvants. Ils sont extraordinaires et qui sont tous inoubliables.
Ouais. Alors, c'est marrant, vous abordez un peu le sujet comme ça, mais on ressent aussi quand on lit votre livre que, au fait, c'est presque une évidence. Vous emmenez votre vélo, c'est d'une manière très simple. Il n'y a pas plus d'équipement que ça. Vous ne préparez pas tellement vos itinéraires. Alors, vous avez une carte on voit des cartes papier sur votre vélo, mais pas de GPS. Enfin, vous partez très simplement, visiblement.
Alors, oui et non. Oui et non, pourquoi ? Parce que déjà, j'ai toujours conditionné mes évasions et ces 2 jours à la météo.
Ouais.
C'est-à-dire que j'essaie d'être, on va dire, je suis un aventurier, mais pas un aventurier dans le confort. C'est-à-dire que j'aime bien être
un aventurier de luxe.
Un aventurier de luxe. Je veux être sûr de ne pas me prendre des bourrasques de vent,
ouais.
Des tempêtes de grêle.
C'est pas
super cool.
Vous êtes quand même parti en pleine canicule ?
Alors oui, ouais, ça, mais...
C'était un contexte particulier.
Mon livre, c'était pour une raison justement très personnelle où
oui.
Je pense que j'avais à ce moment-là vraiment besoin de partir et de m'échapper. Donc ma femme m'avait défendu.
Oui, oui.
Mais je suis quand même parti effectivement pendant la canicule de 2019 en juillet.
Oui.
Mais donc en fait je pars de manière assez simple dans le sens où je vais regarder la météo, je m'assure que la météo soit bonne. Que les températures soient correctes, à part cet épisode caniculaire. Et puis après, je pars de manière assez naïve, c'est-à-dire que je pars du principe qu'il ne va rien m'arriver. Je pars du principe que je vais toujours trouver un endroit où dormir. Je pars du principe que j'ai toujours trouvé un endroit où pour me remplir une gourde, enfin ouais. plutôt une bouteille d'eau. Je vais partir du principe que j'ai toujours trouvé un endroit où je vais pouvoir me rassasier, me nourrir. Donc c'est vrai que je pars de manière assez, comme beaucoup de gens partiraient faire une balade de 2 heures. Et en fait, ça dure 2 jours.
Quand vous dites que vous partez d'une manière naïve, c'est aussi d'une manière très optimiste. Vous comptez beaucoup sur les personnes que vous croisez pour vous donner de l'eau ou vous accueillir.
Écoutez, à chaque fois que je raconte mes périples, on me pose toujours la même question. C'est, allez, raconte-nous ce qui t'est arrivé de pire. Raconte-nous.
Racontez-moi ce qui vous est arrivé de pire.
Où t'as vraiment eu peur. Raconte-nous ouais. un moment où t'es arrivé un problème. Et je déçois toujours mes amis quand je leur dis ça. Il m'est jamais rien arrivé de grave, de pire, de problématique. À chaque fois que j'ai été dans une situation où je devais trouver impérativement un endroit pour dormir, j'ai été hébergé par des gens. À chaque fois que j'avais plus d'eau et que c'était une question, on va dire de vie ou de mort, mais en tout cas d'évanouissement, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a apporté de l'eau. Oui. À chaque fois que j'étais à deux doigts d'avoir une fringale parce que j'avais rien dans le ventre et que j'avais traversé des villages qui sont vides, déserts, où il n'y a plus de commerce parce que la France aujourd'hui est malheureusement, il y a des parties de France qui sont des déserts commerciaux. Mmh. J'ai toujours trouvé quelqu'un qui m'ouvrait sa porte et au lieu de me donner un bout de fromage, il me donnait un sandwich avec du fromage, du pain et des légumes. Donc, je n'ai toujours eu que des bonnes surprises. Même lorsque j'ai crevé en plein milieu des monts du Forêt, dans le Massif central, il n'y avait rien 20 km avant, 20 km après. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a pris en voiture, qui m'a emmené au fin fond de la forêt chez un de ses copains. Et son copain m'a dit, écoute, j'ai tout ce que tu veux, chambre à air, rustine, vélo, j'ai tout ce que tu veux. Il avait effectivement dans son auberge un rayon cycliste incroyable. Il m'a dit, par contre, tu prends l'apéro avant avec moi. Et on a pris l'apéro pendant 2 heures.
D'accord.
Donc, vous voyez, je n'ai jamais été, on va dire... J'ai jamais eu une mauvaise surprise.
Ouais. Alors, ce qui est plutôt rassurant, et on abordera le sujet en deuxième partie d'émission. Là, on va laisser la parole à Abel Guggenheim, qui va nous faire sa chronique hebdomadaire. Et Abel, il a une vision un peu comme vous. Il a une vision qui est plutôt optimiste du vélo et de l'environnement vélo et du système vélo. Et il va nous raconter aujourd'hui sa vision à lui spécifique. Abel, je te laisse la parole.
Nous sommes le 8 février 2021. Et c'était donc hier, 7 février, le 25e anniversaire de la première réunion de la commission extra-municipale sur le vélo à Paris. Ma chronique d'aujourd'hui aura donc une connotation historique et un peu nostalgique. Un retour en arrière d'abord. À 2 reprises, en juillet et en octobre 1994, à l'initiative de l'État, toutes les voies sur berge parisiennes sont fermées à la circulation automobile et réservées aux piétons et aux cyclistes tout un dimanche. Le succès et le plaisir sont immédiats et spectaculaires. À l'été 95, Jean Tiberi, qui s'est assis en mars dans le fauteuil de maire de Paris occupé pendant 18 ans par Jacques Chirac, décide de renouveler régulièrement tous les dimanches cette opération à nouveau très appréciée. Ce même été 1995 paraît la première édition du rapport ERPURS, E-R-P-U-R-S, évaluation des risques de la pollution urbaine sur la santé, qui met clairement en évidence les conséquences sanitaires directes des épisodes de pollution, aujourd'hui bien connus, mais pas du tout établis à l'époque, ce qui aboutit entre autres à la création d'Air Paris. Et vient novembre-décembre 1995, grande grève des transports publics. Pas besoin de détailler, hasard du calendrier, elle se produit à la même date, avec la même ampleur et les mêmes conséquences que celles de 2019. Et l'apparition de milliers de vélos et de cyclistes provoque le même étonnement, même sans doute un peu plus, qu'il y a un peu plus d'un an. Ces événements ne sont pas étrangers à l'annonce par Jean Tiberi, au tout début de 1996, d'un plan vélo, presque 15 ans après l'échec spectaculaire des couloirs de courtoisie, lancé en 1962 par Jacques Chirac, tracé en particulier à gauche des couloirs bus et rapidement surnommé « couloir de la mort ». Une conférence de presse le 19 janvier trace les grandes lignes de ce plan et les associations sont convoquées à la réunion à l'hôtel de ville dont je vous parlais en introduction. Il y a donc un quart de siècle. Je m'en souviens. Une table en longueur, d'un côté les représentants des diverses associations, de l'autre le maire de Paris, entouré de plusieurs de ses adjoints et de ses directeurs, pas seulement ceux s'occupant de la voirie et des déplacements. Au bout de quelques instants, nous avons compris qu'en fait, Jean Tibéri ne s'adressait pas uniquement à nous, mais aussi, et peut-être surtout, aux personnes qui l'entouraient, pour leur faire passer le message qu'à partir de ce moment, nous étions validés comme interlocuteurs pertinents. S'en est suivi une période intense de travail commun avec les services de la voirie, parfois tôt le matin, parfois tard le soir, dans leur bureau, sur le terrain. Habitués à avoir comme seul objectif de faire circuler des véhicules motorisés le plus rapidement et le plus efficacement possible, ils avaient besoin de tout apprendre pour prendre en compte de nouveaux objets dont ils ne connaissaient pas du tout le mode d'emploi. Et les premiers aménagements, boulevard Saint-Germain, boulevard du Palais, boulevard de Sébastopol, ont été livrés début juin 1996. 4 mois seulement après. À la semaine prochaine.
Vous êtes bien sur causecommune.fm sur 93.1. Vous écoutez Rayon Libre, animé par Jérôme Sorel. Aujourd'hui, j'ai décidé d'accueillir au micro Geoffroy Sébline, un monsieur comme vous, comme moi. Il bosse, il a une famille. Par contre, pas comme moi, il part tous les mois ou presque 2 ou 3 jours en France à vélo. Vous venez d'écouter la chronique d'Abel. Geoffroy, est-ce qu'on pourrait, là, juste avant de la chronique d'Abel, vous nous racontiez que vous n'avez que des belles expériences. Est-ce que, vous, quand même, j'ai l'impression, quand je lis votre livre, vous avez une expérience qui est un peu malheureuse, mais vous en faites quelque chose de positif, avec un contrôleur SNCF?
Alors, c'est raison de parler de ça.
En fait, Abel Guggenheim parlait dans sa chronique de l'émission précédente, il nous parlait il y a un nouveau décret, c'est qu'avec avec un engagement de...
J'ai vu ça, je peux dire que beaucoup de gens me l'ont envoyé, ce décret, et je compte dessus pour justement titiller la SNCF, parce que je parle pas mal d'eux dans mon livre. Ouais. Effectivement, ma logistique dépend quand même pas mal, non pas de la météo ou du vélo, mais aussi du train. C'est-à-dire que lorsque je fais, par exemple, Nevers la Souterraine ou Aurillac-Clermont-Ferrand, pour aller à Aurillac, j'ai besoin d'un train.
Ouais.
Et quand je suis à Clermont-Ferrand, j'ai besoin de revenir en train à Paris, là où j'habite. Donc, en fait, la règle SNCF, elle est assez claire jusqu'à maintenant. Vous pouvez prendre le TGV et aller partout en France, parce qu'aujourd'hui, la plupart des trains sont des TGV. Vous pouvez monter dans un TGV à partir du moment où vous mettez une housse, votre vélo dans une housse.
Oui.
Ok, très bien, ça c'est sympa. Sauf que lorsque vous faites Aurillac-Clermont-Ferrand, alors là il n'y a pas de TGV, mais quand vous faites Marseille-Montélimar ou Lyon-Tournus, c'est très compliqué après de vous trimballer avec une housse. Donc en gros, ça m'oblige à ne prendre que des trains corail.
Ouais.
Moi, je suis ravi parce que les trains corail, c'est sympa, c'est une France que un peu oubliée, que j'aime beaucoup. Donc je pense que j'ai pris toutes les lignes. Sauf qu'à partir d'un moment, vous ne pouvez pas toujours les trains corail, c'est surtout Paris-Toulouse ou Paris-Clermont-Ferrand. Donc
ouais.
Vous ne pouvez pas toujours faire les mêmes trajets. Donc c'est vrai que j'ai essayé de prendre souvent des TGV. Alors quelquefois, il y a quelques rares TGV qui acceptent des vélos parce qu'ils ont des wagons qui sont configurés pour recevoir des vélos sans qu'on ait à les démonter. Quelquefois, j'ai forcé le destin en attendant que le contrôleur il tourne le dos en montant dans le TGV et je savais que j'allais me prendre 45 euros d'amende ou aucune amende si le contrôleur était réceptif à mes, à mes récits. Et quelquefois, dans les trains corail aussi, vous n'avez pas toujours de wagon pour le vélo, donc il faut le démonter. Donc c'est vrai que mes trajets, par exemple, l'autre jour, j'avais un ami qui me disait « Ah, je veux absolument aller à Nice, faire Nice-Marseille à vélo.
Ouais.
J'ai un TGV à telle heure. » Je dis « Ok, très bien, mais tu vas faire comment avec ton vélo ?» Il me dit « Ah, mais non, je le mets dans le TGV. » Et c'est vrai que moi, c'est déjà arrivé de rester à quai.
Ouais.
Le contrôleur refusait que je monte dans le TGV.
Alors que vous aviez payé votre place.
Alors que j'avais payé ma place, alors que j'étais en règle, alors que j'avais une super motivation, que j'étais prêt à démonter mon vélo, à rester à côté de mon vélo. Et voilà, vous avez des contrôleurs. Je veux pas maudire la SNCF parce que indirectement, grâce à la SNCF, j'ai pu traverser la France et réaliser un peu toutes ces aventures. Mais c'est vrai que quelquefois, avec leurs règles qui sont pas toujours très claires et pas toujours très bien adaptées, et quelquefois avec la mauvaise volonté de certains contrôleurs, j'ai pas pu rentrer ou partir de chez moi. J'ai un exemple très précis où j'étais à Tours, je venais de faire Noirmoutier-Tours, je crois que c'est le premier chapitre. Je venais de faire Noirmoutier-Tours, donc j'avais fait 320 km en une seule journée. Le lendemain, j'étais complètement KO, j'étais à Tours. Et là, je suis arrivé et le contrôleur m'a interdit de monter dans le train. Et il m'a dit, je vais veiller personnellement à ce que vous ne montiez pas dans aucun train.
Sorte de vengeance personnelle.
Voilà, il doit avoir une petite vengeance. Ouais. Il n'a pas aimé le vélo. Mais grâce à lui, c'était au tout début, c'était il y a une vingtaine d'années. Et grâce à lui, je suis parti de Tours. Je suis allé à Orléans, donc j'ai remonté une partie de la Loire. Et puis après, j'ai traversé la Sologne. Et puis j'ai découvert la magie des trains corail qui sont devenus des TER. Et de toutes ces petites gares de province et de sous-préfecture qui sont juste extraordinaires.
Au fait, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que on peut voyager à vélo, il suffit de prendre son temps, et on peut voyager avec un vélo dans le train, il suffit aussi de bien vouloir prendre son temps, tout simplement.
Exactement, exactement. C'est un récit du temps suspendu.
Ouais.
C'est-à-dire que nous, d'aller à Nice, c'est forcément en avion, c'est une heure, ou c'est forcément en train, environ 5 heures.
Ouais.
Ça peut être aussi en train de nuit,
ouais.
Toute une nuit.
Ah bah, qui vont revenir d'ailleurs, les trains de nuit.
Pareil, Mulhouse, je suis allé à Mulhouse parce que je rêvais d'aller à Mulhouse et de traverser les Vosges à vélo.
Ouais.
Et j'ai dû m'y reprendre à 4 fois de mémoire. Je le raconte dans un des chapitres Mulhouse-Chaumont. Je me suis repris à 4 fois et entre les grèves, entre la volonté malveillante d'un contrôleur qui n'a pas été très sympa ce jour-là, et puis 2 autres fois où. Une fois, j'avais crevé en allant à la gare. Bref, j'ai fini par aller à Mulhouse en TER et j'ai mis environ 5 heures, 5 heures et demie, oui, c'est 16h, 21h30. Je suis arrivé de nuit à Mulhouse, mais j'étais arrivé à Mulhouse.
Et alors, le TGV, le train, en tout cas, on a compris que c'était une partie intégrante au fait de votre livre et de vos aventures et de vos histoires. Est-ce que... Puisque là, votre livre, c'est 20 ans de traversée de la France en long, en large et en travers, et peu importe d'ailleurs le livre, parce que dans le livre, je pense que vous ne mettez pas tous vos trajets. Est-ce que vous avez vu une sorte de vous avez vu l'œil évoluer, enfin l'accueil ou la perception du cycliste solitaire évoluer pendant ces 20 dernières années, ou finalement vous avez l'impression que ce que vous avez vécu en 99, vous pouvez le vivre de la même façon en 2021 ?
Alors, pas vraiment, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de choses évoluer,
ouais.
J'ai vu la désertification des campagnes,
ouais.
J'ai vu des villages quasiment disparaître, j'ai vu des abords de villes se développer de manière grandissante. J'ai une anecdote rigolote là-dessus, j'ai toujours la même carte que j'avais achetée en 2002.
Dernière édition, la fameuse.
Bah ouais, surtout c'est peut-être la dernière édition, mais en tout cas c'est celle de 2002. Et puis à l'époque, je me souviens, la périphérie de Villeneuve-sur-Lot, elle était ce qu'elle était. Et puis j'ai fait un trajet 15 ans après en traversant Villeneuve-sur-Lot. Et en fait, Villeneuve-sur-Lot avait quasiment doublé de dimension par des zones périurbaines, des zones commerciales.
Magnifique, avec des vendeurs de meubles.
D'après, en fait, j'étais toujours dans Villeneuve-sur-Lot. Et c'est ma carte qui n'était pas du tout jour. Donc la France a beaucoup changé. L'œil des Français sur le vélo, je ne crois pas. Les Français sont toujours immensément accueillants,
ouais.
Immensément gentils, immensément bienveillants. Peut-être la France des campagnes, alors je ne veux absolument pas faire de caricature ou opposer qui que ce soit, mais je pense que la France des campagnes est immensément accueillante, gentille, bienveillante. C'est... Voilà, j'aime profondément cette France où il m'est arrivé des choses, mais extraordinaire, que je raconte dans le livre. Je demande une fois ma direction, je demande un hôtel à une personne. Mmh. Il rigole parce qu'il me dit qu'il n'y a plus du tout d'hôtel dans sa vie depuis 25 ans. Et il me dit, mais par contre, moi j'ai 2 maisons, et la deuxième est la vôtre,
ouais.
pour cette soirée. Et il me prête sa maison, il me montre l'adresse d'un restaurant,
ouais.
Il me place entre guillemets dans ce restaurant. Et puis au bout de 5 minutes, il revient vraiment avec une mine désolée. Et assez gêné, il me dit, mais je suis honteux, je vous ai même pas invité à dîner chez moi, j'ai toute ma famille,
ouais.
Je suis désolé, j'ai oublié de vous inviter à la maison, venez dîner ce soir à la maison.
Et puis c'est
donc,
ce qu'il dit,
ça, c'est des choses qui
c'est ce que vous dites dans le livre, il recevait ce jour-là ses enfants et ses gendres et autres.
Enfants, ouais. Et il était gêné, il était désolé d'avoir oublié de m'inviter à dîner, alors qu'il venait déjà de me filer sa deuxième maison.
Ouais.
Il était vraiment extrêmement confus d'avoir oublié cela. Et en fait, c'est peut-être à partir de ce moment-là où j'ai eu pas mal Ça, c'est un autre aspect de mon livre, mais j'ai eu pas mal de belles rencontres.
Ouais.
Et en fait, j'ai décidé de photographier ensuite les gens.
Ouais.
Donc souvent, ça, alors, c'est assez intrusif la photographie. C'est-à-dire que les Français, c'est pas, on n'est pas au Kenya où, où on photographie les gens dans leur village. On ne peut pas faire ça. Donc il faut déjà établir un lien. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu une discussion, un échange, une conversation sympathique, souvent je me suis proposé de photographier les gens. Donc à chaque fois ils disent oui, bien évidemment, parce que le contexte est plutôt sympathique. Et après, ça ils le savent pas, mais je leur envoie la photo encadrée chez eux. Et donc bien évidemment ils sont toujours contents parce que la photo est sympa, ils ont un beau souvenir, puis le cadre c'est toujours sympa d'avoir une jolie photo de soi encadrée chez vous. Et donc ils m'écrivent et on garde toujours un lien. Et c'est vrai que ce livre a été le moyen de reprendre le lien avec quelques personnes. Mais voilà, ça fait partie de tous ces beaux moments partagés, où une fois de plus, à part quelques mauvais méchants contrôleurs, mais ils respectaient la loi, donc je peux pas leur en vouloir. Je n'ai eu que des belles surprises.
Mais alors ça me confirme quand même. En introduction, je disais, vous, en lisant votre livre, ça me fait penser à ce livre de Sylvain Prudhomme, Par les routes. Vraiment, je vous conseille de le lire, Geoffroy, et les auditeurs et auditrices, pareil, je vous conseille de le lire. L'histoire là, que vous racontez des portraits, si je me souviens bien, elle est aussi racontée un peu de la même façon dans Par les routes. Il y a des vrais parallèles qui existent. Avant de terminer l'émission, Geoffroy, j'ai quand même une question, moi, qui me titille depuis que je prépare l'émission et que je me dis qu'on va discuter. C'est: comment vous faites pour vous libérer deux ou trois jours avec une femme, un ou plusieurs enfants? Je ne suis pas sûr, je suis pas bien sûr si vous en avez une ou deux. C'est une sorte de deal que vous avez avec votre chérie. J'ai besoin de partir, laisse-moi partir.
Alors elle n'est pas là, mais elle va certainement écouter l'émission. Elle n'est pas derrière moi, je vous le promets.
Coucou.
En train de me mettre un couteau sous la gorge, mais j'ai la chance d'avoir une super femme qui est compréhensive, qui sait comment je marche. Chacun a ses passions. Il y a des gens qui sont passionnés, qui ont besoin de partir tout le week-end faire de la chasse ou
le vélo, c'est mieux.
Du rugby.
Le vélo, c'est mieux que la chasse.
Moi, j'ai besoin de partir deux jours, on va dire un week-end par mois, entre mars et octobre. Quand il y a la belle saison, et ça, elle est compréhensive, elle sait que c'est mon équilibre.
Ouais.
Et puis j'ai envie de vous dire, je pense qu'elle est contente que je fasse ça, parce que c'est un équilibre qui est assez sain. Je pourrais faire des choses pires, et donc je pense qu'elle est aussi heureuse que je trouve mon équilibre là-dessus. Et je n'ai qu'une petite fille qui s'appelle Daphné, et elle est très contente de revoir son père au bout de deux jours. Elle me pose plein de questions. Je suis très heureux de lui raconter ses aventures, donc c'est... Je lui apporte aussi, je pense, une ouverture d'esprit dans ces balades que je raconte.
Bah super. L'idée de cette émission avec vous, Geoffroy, c'était de montrer et de démontrer à nos auditeurs et auditrices que finalement, c'est facile de prendre son vélo et de partir un jour, deux jours, trois jours en France, et qu'il y a plein de rencontres à faire. Donc, j'encourage tous ceux et toutes celles qui nous écoutent à faire de même, et puis qui viennent nous raconter ensuite. Geoffroy, je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre présence au micro de Rayon Libre aujourd'hui. Évidemment, je remercie encore Amandine et Stéphane pour la réalisation de cette émission. Amandine, elle anime une toute jeune émission sur la radio Cause Commune, ça s'appelle Anamorphose. C'est une émission sur l'histoire de l'art et la culture, un peu comme, au fait, mon invité du jour, comme vous, Geoffroy, quand vous, dans vos établissements, quand ils sont ouverts, vous participez à la vie culturelle d'une ville comme Paris. Bah elle, de son côté, Amandine, elle prend le micro, elle parle d'art, elle parle comme la dernière émission, et la première émission, c'est sur le pain de Turner. Alors quand vous, Geoffroy, vous prenez la plume, que vous parlez de vélo et de voyage, Amandine, elle, de son côté, elle parle de musique classique, ou elle parle d'art d'une manière générale. Et à propos de musique, dans les clubs et restaurants, la musique que Geoffroy envoie, on va dire, c'est une invitation à se déhancher sur de la house ou du funk. Bah, Amandine, c'est plutôt de la musique classique. Stéphane, Amandine, merci beaucoup pour la réalisation. Et puis, je vais vous laisser nous envoyer justement un peu de musique funk et thaïlandaise. Alors, je suis incapable de donner le nom et le titre parce que je lis pas le thaïlandais. Je peux juste vous dire que c'est le groupe qui s'appelle The Impossible. Et c'est sûr, je vous laisse, on vous laisse. Et sur une telle musique, on va aller pédaler avec Geoffroy, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Et sur cette musique, je suis sûr qu'on va tous se déhancher. Merci pour votre écoute, merci Geoffroy pour votre présence. Et puis je vous dis à tous, à la semaine prochaine.
ผมไม่เกี่ยวอะไรผมไม่รักกับใคร